est 6h à Paris, 5h en temps universel.
RFI Matin.
Bonjour Jeanne Bartoli.
Bonjour Andréane et bonjour à tous.
Dans ce journal, Jeanne, après les menaces, le dialogue.
L'Iran et les États-Unis vont entamer des discussions sur le nucléaire iranien, notamment peut-être dès la fin de cette semaine en Turquie. Alors sur quelle base, quels objectifs pour Washington? On va faire le point dès le début de ce journal. On parlera aussi de l'Ukraine et Kiev, de nouveau visé par des frappes russes après quelques jours de pause et alors que débutent demain des négociations avec la Russie à Abu Dhabi. Cela fait près d'un an qu'aucun ministre français ne s'était rendu à Kinshasa. La ministre française déléguée en charge de la francophonie est depuis dimanche sur place. On fera le point sur le déplacement. À Taïwan, l'opposition favorable à une coopération avec la Chine a envoyé une délégation à Pékin, une première en 9 ans. Et puis en France, le marathon budgétaire est cette fois bel et bien terminé. Le projet de loi de finances 2026, enfin adopté, Sébastien Lecornu évoque le fruit d'un compromis parlementaire. Le président iranien Massoud Pezeshkian ordonne l'ouverture de pourparlers avec les États-Unis. Voilà ce qu'a écrit hier l'agence de presse officielle iranienne Fars, citant une source gouvernementale. Après des semaines de menaces de la part de Donald Trump, les États-Unis et l'Iran vont donc s'asseoir à la même table pour parler notamment du programme nucléaire et balistique iranien. L'émissaire américain Steve Witkoff et le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi pourraient se rencontrer dès ce vendredi à Istanbul, grâce notamment à la médiation de plusieurs pays de la région. Alors, quelles sont les bases de discussion alors qu'un accord sur le nucléaire iranien avait été signé en 2015, puis dénoncé par Donald Trump? Précision de Marine de la Moissonnière du service international d'RFI.
L'accord que Donald Trump semble appeler de ses vœux aujourd'hui n'aurait sans doute pas grand-chose à voir avec celui signé en 2015 par Barack Obama, après avoir fait planer la menace d'une intervention militaire et envoyé une dizaine de navires dans le Golfe. Le président américain est en position de force face aux autorités iraniennes affaiblies, notamment par une contestation interne. Donald Trump compte donc arracher d'importantes concessions dans plusieurs domaines, fin du soutien de l'Iran à ses bras armés dans la région, comme le Hezbollah ou les Houthis, arrêt total de l'enrichissement de l'uranium et limitation de son programme balistique. Hors de question, répond Téhéran, qui n'entend sans doute pas aller plus loin qu'en 2015. Le pays avait alors accepté un programme de surveillance de la part de l'Agence internationale de l'énergie atomique assez poussé. Un accord épouvantable, le pire qu'aient jamais signé les États-Unis, avait pourtant estimé Donald Trump en 2018. Le président américain avait également accusé Téhéran de ne pas respecter ses engagements sans fournir de preuves. Poussé par Israël, il avait fini par annoncer la sortie des États-Unis de cet accord.
Marine de la Moissonnière.
La bourse de Bombay s'envole à l'ouverture ce matin.
Et l'indice Nifty flambe de 5% après l'annonce par Donald Trump d'un accord commercial avec l'Inde. Après des mois de tension, les droits de douane sur les marchandises indiennes allant aujourd'hui de 25 à 50% vont baisser à 18% selon Donald Trump. Selon le président américain Narendra Modi, lui, aurait donné son accord pour arrêter d'acheter du pétrole russe. La Russie et l'Ukraine qui vont se retrouver avec les États-Unis autour de la même table de négociation à Abu Dhabi. Ce sera demain et jeudi. Hier, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'était félicité de récentes mesures de désescalade avec la Russie qui renforçait la confiance dans les négociations de paix. Voilà ce qu'il a déclaré hier. Depuis la semaine dernière, l'armée russe avait interrompu ses frappes sur le secteur énergétique. Eh bien, la Russie a repris cette nuit ses attaques sur Kiev, faisant 2 blessés selon les autorités. En parallèle, les troupes russes ont accéléré leurs avancées en janvier sur le terrain. Elles ont gagné près de 2 fois plus de territoire que le mois précédent, selon une analyse de l'agence France Presse. Une avancée évidemment stratégique politiquement. Écoutez Ulrich Bouna, analyste géopolitique et chercheur associé chez Eurocreative.
Ça n'a pas d'impact stratégique dans le sens où les Russes n'arrivent pas à conquérir véritablement de grandes villes. Même sur la ville de Pokrovsk, il n'y a pas de rupture du front côté ukrainien. C'est un peu des victoires à la Pyrrhus côté russe. Donc chaque victoire, même minime, nécessite un temps, si vous voulez, de régénération des forces côté russe. En revanche, là où c'est important, c'est d'un point de vue plus politique et notamment international, cette avancée qui est réelle, elle permet d'alimenter un narratif que la Russie porte auprès de du monde entier, notamment de Washington, de dire que son armée est inarrêtable et que finalement, un cessez-le-feu, ne fût-ce qu'un cessez-le-feu, ce serait une énorme concession de la part des Russes. Et ça, ce narratif, il faut reconnaître que Donald Trump l'entend, le comprend et, je pense, l'a intégré.
Ulrich Bouna, joint par Julien Chavannes. Et puis, c'était il y a un mois, la spectaculaire opération militaire américaine ayant conduit à l'enlèvement du président vénézuélien Nicolas Maduro, sous pression de Washington depuis sa nomination. La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, a mis en œuvre depuis les changements exigés par Washington. Nouveau pas dans le sens des États-Unis. Hier, elle a rencontré la nouvelle chef de mission diplomatique des États-Unis au Venezuela, Laura Dogu, et nommé l'ancien ministre des Affaires étrangères, Félix Plasencia, comme chef de mission diplomatique aux États-Unis. Un tournant dans les relations entre les deux pays rompues en 2019.
RFI à Kinshasa, 105 FM.
En République démocratique du Congo, le plus grand parti d'opposition au Parlement conteste les préalables annoncés par le président Félix Tshisekedi en vue d'un dialogue national.
Et Ensemble pour la République de l'opposant Moïse Katumbi rejette toute démarche qu'il qualifie de simulacre de dialogue et pose plusieurs préalables, dont la libération des prisonniers politiques, la fin des poursuites judiciaires à caractère politique et la levée des restrictions visant les opposants. Le parti dénonce par ailleurs les contradictions du président Félix Tshisekedi, mettant en garde contre toute tentative de modification de la Constitution en vue d'un troisième mandat.
La RDC, Jeanne, où est en visite la ministre française déléguée en charge de la francophonie.
Et cela fait près d'un an qu'aucun ministre français ne s'était rendu à Kinshasa. Au programme depuis dimanche, des signatures de protocoles et des rencontres de haut niveau, dont une avec son homologue congolais. Correspondance Pauline Azidi.
Le dernier déplacement d'un ministre français à Kinshasa remonte à la fin du mois de janvier 2025. Jean-Noël Barrot, chef de la diplomatie, avait alors effectué une visite express de quelques heures, deux jours après de violentes manifestations qui avaient conduit à de nombreuses dégradations dans plusieurs ambassades de la ville, dont la représentation française. Cette fois-ci, Éléonore Carrois reste plusieurs jours avec un programme chargé. Ce lundi, elle a notamment signé un protocole d'entente sur le projet Dinga, ce méga barrage sur le fleuve Congo. Ce déplacement arrive au moment même où la RDC vient d'annoncer son intention de briguer la tête de l'Organisation internationale de la francophonie lors du sommet prévu fin 2026 au Cambodge, s'opposant de fait à un troisième mandat pour la Rwandaise Louise Mushikiwabo. Et selon une source gouvernementale, Kinshasa devrait demander le soutien de la France sur cette initiative. On attend du lobbying pour notre candidat, confirme un proche de la présidence. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
RFI 13h08 à Taipei, coopérer avec Pékin plutôt que chercher à se défendre face aux menaces d'unification de Xi Jinping.
Oui, c'est le pari que fait le Kuomintang taïwanais, favorable à un dialogue avec Pékin. Le principal parti d'opposition à Taïwan qui a envoyé une délégation en Chine pour échanger avec le parti communiste, un forum d'échange qui n'avait pas eu lieu depuis maintenant 9 ans. Objectif, devenir les interlocuteurs privilégiés de Xi Jinping à Taïwan et négocier un dégel aux contours encore très flous. Correspondance avec Jules Bois.
Construire un consensus et favoriser la coopération, voilà les principaux objectifs avancés par le KMT pour justifier ce forum. Si cette rencontre a pu avoir lieu, c'est aussi parce que le parti d'opposition taïwanais accepte d'adhérer au narratif d'une seule Chine, je cite, « historiquement, culturellement et par lien de sang, Taïwan et la Chine ne devraient jamais être considérés comme des entités distinctes », a martelé le vice-président taïwanais du Kuomintang à Pékin ce matin. Avec ce forum, le parti majoritaire à l'Assemblée taïwanaise marque la fin d'une quasi-décennie d'appels au dialogue prudent, mais sans rencontre officielle de cette ampleur. Une prudence balayée d'un revers de la main par la présidente du Kuomintang, Zhang Liwen, qui depuis son élection en octobre dernier souhaite devenir l'architecte d'un dégel entre Taïwan et la Chine. Un dégel aux conditions très floues que ne clarifie pas encore le Kuomintang. Le gouvernement taïwanais, lui, accuse le parti de compromission et affirme que son blocage au Parlement d'un budget spécial de la défense fait partie des conditions dictées par Pékin. Jules Bois, Taipei. RFI.
Aux États-Unis, Bill et Hillary Clinton témoigneront finalement au Congrès sur l'affaire Epstein.
Ils avaient jusque-là refusé de comparaître devant la commission d'enquête parlementaire. On va y revenir dans le journal de 8h. L'affaire Epstein qui éclabousse par ailleurs l'ancien ministre français de la Culture, Jack Lang, et sa fille. Le nom de l'actuel président de l'Institut du Monde Arabe à Paris et celui de sa fille aînée Caroline apparaissent dans la nouvelle salve de documents publiés vendredi par le ministère américain de la justice, notamment concernant une transaction immobilière offshore au Maroc et une société fondée dans un paradis fiscal. La France, où le marathon budgétaire est cette fois bel et bien terminé, le projet de loi de finances 2026 enfin adopté. Les motions de censure du RN et de LFI n'ont pas recueilli hier soir suffisamment de voix. Sébastien Lecornu se réjouit, lui, d'un compromis parlementaire. Retour avec Victorien Villaume sur la fin d'un très long et difficile feuilleton budgétaire.
Juillet 2025, François Bayrou prend de l'avance et présente sa copie.
Chaque seconde, la dette de la France augmente de 5 000 euros. Je propose donc que 2 jours fériés soient supprimés pour tout le pays.
Des annonces qui ne passent pas, François Bayrou échoue à obtenir la confiance de l'Assemblée.
Le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du gouvernement.
Et c'est Sébastien Lecornu qui reprend le flambeau du budget.
Et donc j'ai décidé de renoncer à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. Le sujet maintenant, c'est comment chacun fait un pas.
LFI et le RN se placent en dehors de toute discussion avec le gouvernement, Jordan Bardella.
Nous déposerons dans les prochaines heures une motion de censure.
Là où le PS, comme l'an dernier, accepte l'idée d'un accord de non-censure, Olivier Faure.
Nous sommes prêts à prendre notre part de responsabilité.
9 décembre, contre toute attente, le budget de la sécurité sociale est adopté via un vote.
L'Assemblée nationale a adopté.
Ça bloque en revanche au Parlement pour le budget de l'État. Sébastien Lecornu revient sur sa parole.
Le gouvernement engage sa responsabilité.
2 février, le budget est définitivement adopté.
Aucune des 2 motions de censure n'ayant été adoptée.
Une loi trop à gauche pour la droite, trop à droite pour la gauche.
Victorien Villaume du service politique d'RFI. Enfin, de la musique avec le guitariste suisso-hondurien Luis Matute et son nouvel album Dolce Vita, un disque sorti le mois dernier et où s'entremêlent son héritage hondurien et des influences brésiliennes. Lisa Giroldini.
Derrière l'ironie du titre Dolce Vita se cache une histoire bien plus douloureuse. Luis Matute a enquêté sur sa famille et notamment sur l'exil forcé de son grand-père, chassé du Honduras par la dictature dans les années 70, entraînant l'arrivée de sa famille en Suisse.
J'avais envie de raconter le racisme qu'a subi mon père quand il est arrivé en Suisse, la manière dont il a dû se comporter pour s'acclimater, pour se faire accepter, notamment en ayant recours à jouer un personnage, en fait, à jouer avec les clichés que se font les Occidentaux sur les gens qui sont d'Amérique latine, donc la légèreté de vivre, les beaux paysages, la musique, la gentillesse, la chaleur humaine, les couleurs et tout ça, et qui sont en partie vraies, mais qui ne définissent pas du tout l'entièreté de cette culture et de la politique et des histoires qui sont des fois beaucoup plus sombres que ce qu'on peut imaginer.
Dolce Vita aussi entre des ballades intimes en guitare-voix et de nombreuses influences de bossa nova et de musique populaire brésilienne, le tout enregistré entre Paris et Rio. Yeah,
et c'était Lisa Giroldini.
Qui sera en studio tout à l'heure, juste avant 9h pour ce choix musical du jour sur RFI. Merci Jeanne Bartoli. À Paris, Brazzaville et Madrid, il est 6h13, c'est le début de votre tour du monde quotidien de l'info. On va parler aujourd'hui du Venezuela, 1 mois très exactement après l'opération militaire éclair américaine. On s'intéresse notamment aux remises en liberté de prisonniers. Une loi d'amnistie est d'ailleurs prévue. Vous entendrez la joie des familles dans le journal de 7h.
Je suis tellement émue car j'ai pu voir mon fils 2 fois. Aujourd'hui, il était tout rouge et il m'a dit « Je sors bientôt ». Il a hâte. Bientôt, il sera à la maison avec l'aide de Dieu. Après-demain, cela fera 5 mois exactement depuis qu'il a été séquestré.
Et puis notre dossier du 8h consacré justement à cette question du sort des prisonniers au Venezuela. Ce matin, on parle aussi des États-Unis, le shutdown, l'affaire Epstein, dont les dernières révélations touchent de nombreux Européens. Les États-Unis et ce rapprochement avec le Mali, ces négociations aussi prévues avec l'Iran vendredi. On parle de l'Ukraine également quelques heures après de nouvelles attaques de drones russes sur le pays. On va entendre les membres d'une unité ukrainienne de défense aérienne mobile.
Bien sûr, on travaille dur, mais c'est notre travail. On fait tout ce qu'on peut pour protéger nos civils, pour protéger nos terres.
Reportage à écouter à 8h20. Et puis la Guinée-Bissau aussi, la République démocratique du Congo également. Le parti de Moïse Katumbi qui conteste les conditions en vue d'un dialogue national. Ce dialogue intercongolais, justement, vous en parlez avec Juan Gomez tout à l'heure dans Appel sur l'actualité. À 8h10, temps universel, RFI Matin, c'est aussi nos invités. Bonjour Arnaud Pontus.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
Ce matin dans nos studios, vous recevez l'essayiste et ancien conseiller politique Aquilino Morel.
Oui, il a été conseiller du Premier ministre Lionel Jospin, puis du président de la République François Hollande dans son dernier essai « La France, miroir de l'Amérique ». Il démontait la vision.
Et il avait un grand chapeau avec une petite tête dedans, des oreilles en forme de chou et en dedans des poils tout blancs, une grosse barbe, une moustache et de longs cheveux grisonnants, des yeux mouillés et attristés comme on en croise de temps en temps. Une petite pièce s'il vous plaît pour le clochard de la rue du Caire, un pauvre euro pour le clodo qu'il sachait de quoi prendre chaud. Une petite pièce s'il vous plaît, juste quelque chose à bouffer, un pauvre euro pour le clodo rêvant de se jeter un bon bain chaud. Il avait pourtant la bonne mine quand il était chef d'entreprise, vêtu d'un beau costard cravate, il n'était pas trop diplomate. À celui qui tendait la main, lui répondait, demande aux voisins. Maintenant qu'il est sur le trottoir, c'est une autre histoire. Tous ceux qui furent ses semblables fusils du regard, il use de larmes et de grimaces pour le leur jeter en pleine face. Une petite pièce, s'il vous plaît, pour le clochard de la rue du Caire, un pauvre euro pour le clodo qu'il s'achète de quoi prendre chaud. Une petite pièce, s'il vous plaît, juste quelque chose à bouffer, un pauvre euro pour le clodo rêvant de se jeter un bon bain chaud.
À le chemin d'un vieux gitan de manche à la main, qui lui dit viens donc au comptoir, que je montre un tour de guitare. Depuis il arpente les rues, depuis il gratte à corps perdu sur tous les quais et les trottoirs, mendiant leur petit coup à boire. Une petite pièce s'il vous plaît, pour le clochard de la rue du Caire, un pauvre euro dans le chapeau, pour un dernier petit bain chaud. Une petite pièce s'il vous plaît, juste quelque chose à bouffer, un pauvre euro pour le clodo rêvant de se jeter un bon bain chaud.
Pas de doux quand je rappe je joue. Pas de doux quand je rappe je joue. Pas de doux quand je rappe je joue.
Je ne fais pas que vite pour le buzz, que des collaborations. Si l'MC est bon, branche le mic, prépare les ovations. La caisse claire, atomise, laisse faire, applaudis. Je suis à propos de ce liquide comme une espèce d'alcoolique. Ils font pas des scènes faire, mais des spectacles comiques. Je représente les miens un peu comme Denzel Malcolm X. Et je ne m'intéresse pas à la politique, je m'intéresse à mon frigo, ma libido et mon chrome. Je vis
assez de thunes pour plus me prendre la tête avec, assez de fume pour faire des putains de textes avec. J'ai assez de burnes pour escalader les vestes avec. J'en ai assez d'une, c'est la seule qui mérite que je reste avec. Elle veut qu'on jacque quand je préférais qu'on perde la tête. Mais je veux pas être son Jacques, je ne veux pas faire d'elle ma Bernadette.
Pas de doux, quand je rappe je joue. Pas de doux, yeah. pas de doux.
Je suis dans l'immeuble, je suis traditionnel comme une assiette de pâtes. Je regarde personne, follow personne, je suis un stigmate. Les filles d'aujourd'hui vont croire que je suis macro, que j'ai un paquebot alors que je suis même pas dans les bacs. Je vois cette merde, je ne m'enflamme pas du tout. Mais dans mon entourage, j'ai toujours l'image du mec grave sévère et qui est partout. Les autres me disent qu'il faut qu'on aille au bout. TR3000, c'est sûr qu'il faut qu'on fly.
Mais comme Blab, Dab, t'as reconnu la casquette et la barbe, sans blague. Tu voulais du bon rap, puis j'ai du rab, grave, écrase et crache pas. J'ai tellement de flow que même le battement fait des vagues. Bouge ta tête, headbanger, hoodie woodpecker. Flâne dans le secteur, le corps plein de liqueur. Flex comme un breaker, joue les bourreaux de cœur. Barbu comme un biker et acharné comme un hater.
Pas de doux, quand je rappe je joue. Pas de doux, quand je rappe je joue. Pas de doux, quand je rappe je joue. Pas de doux, pas de doux, quand je rappe je joue. Pas de doux, quand je rappe je joue. Pas de doux, pas de doux.
Je veux assez de liasses pour remplir un sac Louis V. Donne-moi les liasses, je te rends le sac Louis V. Gros dégage d'ici, si t'as que des phases easy. T'aimes pas le rap français, il est pourri et tu y participes. Ils font dans l'approximatif, enchaîne petit lab. Moi je fais dans le détail, comme un jeune qui pique grave. J'improvise avec les rêves, j'essaie de vivre à la cool. Mais y'a colline avec les meufs que je suis.
Je veux pas faire ce qu'il a déjà été, mais incarner la variété. Divertir quand c'est pas l'été, diversifier sans m'arrêter. Pop et puis bebop, électropunk et puis rock. Bossa nova et meringue et casa choc et puis reggae. Et du rap mais pas dilaté, chaque track est un petit bébé. Dans le casque mets-moi 10 dB, pour moi ça c'est la vie rêvée.
Pas de doute, quand je rap je joue. Pas de doute, hey. pas de doute.
En toute légalité, tu mites ce qu'on fait et pense qu'on n'a pas vu.
Une fois qu'on voit pas la forêt, dis-leur que l'on n'a pas vu. Mec, la sobriété se fait dans ta tête. Va contrôler tes mouvements et tout péter devant le fait. Ça, tu crois que ça vient tout? Dès que l'un de mes gars t'appelle, tes organes se nouent. Vous avez peur et on la crame et faites que ramer devant la pensée d'un mec condamné. Fleur fané et ton équipe quand ta feu me parle de
Moi j'ai besoin de quelques grammes dans le sang. Comme ça je suis bien, comme ça je retrouve mon âme d'enfant. J'étais comme as dans le temps, de grosses races t'entends. Avec mon pack de Heineken et mes sables dans le vent. Oui j'étais bien trop temps, quand je faisais pas semblant. Alors comment passer inaperçu, j'étais bien trop grand. L'alcool a coulé sous les ponts, la sueur a coulé sur mon front. Toujours au front, toujours à fond, c'est qui le patron?
Pas de doute, quand je rappe je shoot. Pas de doute, quand je rappe je shoot. Pas de doute, quand je rappe je shoot.
Une chaîne d'un ton et d'un style très jeune.
Principe Actif à Évreux, 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9. Et partout ailleurs sur principeactif.net. Principe Actif, le mix des cultures.